mode d'emploi.
Vous êtes sur 106.3, fréquence Paris pluriel, l'émission Monde d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous recevons aujourd'hui Julien Webb, économiste, spécialiste des questions environnementales et énergétiques, qui sera interviewé tout à l'heure par Magali. Mais nous attaquons, comme d'habitude, par l'actualité avec Jean-Marc, qui est là pour nous parler des Kurdes.
Alors les Kurdes, on en parle beaucoup, on en parle souvent très très mal. Les Kurdes sont les seuls à aller au charbon face aux méchants islamistes syriens. Ce sont les seuls sur le terrain, alors qu'à l'heure actuelle, toutes les armées reconnaissent que les bombardements ne serviront à rien et qu'il faudra bien aller au charbon. Et pour l'instant, ils sont tout seuls. Alors pourquoi sont-ils tout seuls? Parce qu'à force de se perdre dans la duplicité, toutes les puissances de la région se sont en train de s'enliser dans les sables syriens et irakiens. L'Irak est complètement perdu depuis ces deux guerres et la bonne gestion de l'après-guerre par les Américains et les chiites majoritaires en Irak, est donc incapable de faire face à cette poussée. La Syrie est en guerre civile, la Turquie préfère taper sur ses propres Kurdes que d'aller taper sur les méchants de l'EIL, et pour cause, le gouvernement islamique soi-disant modéré de Erdogan a plus ou moins financé les débuts de l'EIL pour embêter le voisin syrien. Parallèlement à ça, l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui ont financé l'EIL au départ, font partie de la coalition qui est chargée de lui taper dessus, c'est très crédible. La Jordanie serre les fesses, Israël menace comme d'habitude, et le Liban essaye de montrer un chicot qui lui reste pour faire croire qu'il peut faire quelque chose en cas d'attaque. En attendant, tous les pays voisins sont débordés par les réfugiés syriens et maintenant par les réfugiés kurdes, et les seuls qui se battent sur le terrain, ce sont les Kurdes. Alors qui sont les Kurdes, puisqu'on en parle toujours depuis des années? Ce sont d'abord des gens qui sont nombreux, 25 à 37 millions d'âmes réparties sur le Moyen-Orient et le Proche-Orient, plus toute la diaspora qui représenterait plusieurs centaines de milliers, voire quelques millions de personnes, depuis le temps qu'il y a des émigrés kurdes dans le monde. Qu'est-ce que c'est que le Kurdistan? C'est un espace qui serait estimé à environ 500 000 km et qui pose un problème depuis très longtemps, puisque cet espace se retrouve entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Donc un peuple sur quatre États différents, quatre États qui sont tous des États à problème et quatre États dans lesquels la démocratie est assez relative, voire très très relative. Donc les Kurdes se battent depuis à peine 90 ans pour leur indépendance.
Seulement ? Oh, c'est pas énorme.
Voilà. Il y était déjà question de leur indépendance au moment de la négociation des traités de l'après-première guerre mondiale. Ils ont raté de peu à ce moment-là parce que la France et l'Angleterre n'ont pas tenu leurs engagements déjà à l'époque. Et depuis, ils espèrent avoir un État. Alors, l'une des grandes choses qui se passe justement au Proche-Orient, c'est la redéfinition de tout l'espace irakien, de tout l'espace syrien, mais aussi l'hypothèse d'un Kurdistan, puisque toutes ces frontières datent de 1918 à 1924, et toutes ces frontières sont des frontières à problème qui explosent maintenant.
Voilà, une explication de cette partie du Moyen-Orient qui nous complique bien la vie. Quand on écoute la radio, on entend parler de tous ces peuples. Et le peuple kurde, finalement, on oublie qu'il n'a pas de pays, mais qu'il est à cheval.
Et qu'il est le seul à se battre.
Et qu'il est le seul. Maintenant, on jette des petites bombes par le haut, tu sais, là, à 100 000 euros.
Les autres envoient des drones et les Kurdes se prennent les balles au sol.
Alors, on continue avec l'international, avec Alex qui va nous parler d'Allemagne.
Et oui, parce que en fait, il vient d'y avoir un scoop. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, pour le PIAF, j'avais écrit un article très provocateur, mais bon, je vais vous en parler, qui s'appelait Deutschland über alles, qui était un très mauvais jeu de mots sur l'hymne officiel allemand. Et Deutschland über alles, ça veut dire l'Allemagne par-dessus tout. C'est-à-dire dans le cœur des Allemands, l'Allemagne est par-dessus tout. Mais évidemment, ça a toujours été interprété par les autres, ceux qui ne sont pas allemands, comme l'Allemagne au-dessus de tout. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Et de toute façon, ça a été retiré de l'hymne allemand aujourd'hui. On ne
tout
chante
à fait,
plus
depuis la réunification, ce couplet n'existe plus et ce n'est plus du tout le officiel. Et donc, la question que je me posais à ce moment-là, c'est est-ce que l'Allemagne est effectivement au-dessus du lot des pays? Est-ce que son économie va vraiment mieux que celle des autres? Et là, aujourd'hui, scoop, En fait, c'est tombé avant-hier. L'Allemagne a eu son pire mois d'août, d'un point de vue économique, depuis 2009. Moins 25% de la production automobile, moins 5% des exportations, moins 4% de la production industrielle. Alors évidemment, c'est que le mois d'août. C'est juste un mois. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que au début de l'année, on fait des prévisions à l'avance, comme ça, sur la croissance de l'Allemagne, et on s'attendait à une croissance très forte, autour de 2%. Puis, vers le milieu de l'année, on s'est dit que ça sera plutôt 1,7. Maintenant, on serait à 1,4. Et si on regarde dans le détail, ça pourrait continuer de baisser encore comme ça. Parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a des résultats intermédiaires qui arrivent, des résultats officiels, eh ben, ils sont vachement moins bons que prévu. Et au deuxième trimestre, on a eu une baisse du PIB allemand. Et là, on vient d'avoir un mois d'août absolument épouvantable. Et on pense que le troisième trimestre va être à zéro. Qu'on ne sait pas exactement comment on va finir l'année.
On a l'impression d'avoir une petite satisfaction dans tes propos. Tu n'es pas quand même méchant au point d'en vouloir aux Allemands.
Non. Ce n'est pas la germanophobie primaire. À la rigueur, de la germanophobie secondaire. C'est-à-dire que le vrai problème que pose le succès allemand, c'est qu'il s'est fait au détriment des autres pays européens. C'est-à-dire en diminuant les coûts du travail, en dopant les exportations et en imposant des conditions assez compliquées, des conditions économiques assez compliquées aux autres. Et du coup, on se dit que éventuellement, peut-être, dans le meilleur des cas, si effectivement l'économie allemande se porte moins bien que prévu, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Peut-être qu'ils seront un petit peu moins durs envers les autres pays. Parce que, en fait, qu'est-ce qui fait la croissance allemande ? C'est les exportations. Et les exportations allemandes, elles se font où ? Elles se font essentiellement en Europe. Donc, quelle est la raison ? Et c'était ça le but de l'article. Quelle est la raison pour laquelle l'Allemagne se porte moins bien ? Aujourd'hui, c'est parce que les autres pays de la zone européenne se portent moins bien. La France qui stagne, l'Italie qui est rentrée en récession, l'Espagne qui va très mal, la Grèce qui va encore plus mal. Du coup, la question, c'est qui est-ce qui va acheter les voitures allemandes, justement ?
Et les trafiquants russes.
Et oui, mais le marché russe se porte aussi un petit peu moins bien, et la Chine est un petit peu moins bien que prévu aussi.
Ah, c'est vrai qu'il y a eu des décès chez les proxénètes ukrainiens, donc Mercedes se porte moins bien.
Et donc, du coup...
Remets-toi, Alex. Reprends.
Voilà, donc du coup, l'Allemagne se retrouve prise dans une contradiction intenable. D'un côté, elle a une stratégie, c'est-à-dire le gouvernement ne veut pas que les coûts du travail augmentent trop, donc elle veut pas augmenter les salaires, elle veut pas faire une relance à l'intérieur de son propre espace économique. Et d'un autre côté, elle veut pas payer pour les autres. C'est-à-dire, elle veut pas donner de l'argent ou prêter de l'argent ou investir dans les autres pays d'Europe qui vont mal pour faire repartir la machine économique pour que ses clients potentiels du Sud se remettent à acheter allemand. Du coup, si on fait ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de raison que l'économie allemande aille mieux. Et il commence à y avoir des discussions en Allemagne là-dessus. C'est-à-dire, on commence à se dire, cette super croissance qui est faite à coup de salaires qui baissent et d'investissements publics qui se font plus, et de confrontations assez violentes avec les autres pays de l'Europe, est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Et à ce moment-là, Merkel, qui est quand même sur une position conservatrice, elle a une réponse, et encore plus que Merkel, c'est son ministre de l'économie, Wolfgang Schäuble. Ils ont une réponse, tout ira mieux le jour où les autres pays d'Europe, se mettront à faire comme les Allemands. Mais le problème, c'est qu'évidemment, si tout le monde se met à faire comme les Allemands, peu de chances que ça marche, parce que à ce moment-là, l'avantage compétitif que l'Allemagne retire du fait de ses baisses relatives de salaire va être annulé. Et donc, a priori, ça ne devrait pas changer grand-chose, sinon qu'il va y avoir une spirale vers la stagnation, voire la récession, et surtout que les travailleurs les plus pauvres vont se retrouver pauvres un peu partout dans tous les pays d'Europe. Voilà.
Voilà une conclusion que M. Alex félicite de son article d'il y a quelques semaines, qui était en avance, comme d'ailleurs nos articles sur le Kurdistan, qui étaient en avance
de deux ans.
Alors, nous restons dans l'actualité avec Boris, qui va nous parler du prix Pinocchio.
Voilà, alors donc le prix Pinocchio, là on est un peu plus léger. Vous rappelez du roman de Collodi, Pinocchio, le nez qui s'allonge parce qu'il ment, le petit bonhomme de bois. Alors voilà, plusieurs associations ont décidé de créer un prix Pinocchio pour le développement durable, organisé par les Amis de la Terre, en partenariat avec le CRID, Peuple Solidaire. avec pour but d'illustrer et de dénoncer l'impact négatif de certaines entreprises multinationales en totale contradiction avec le concept de développement durable qu'elles utilisent abondamment. Depuis l'émergence au niveau international du concept de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, notamment lors du sommet de la Terre, toutes ces entreprises s'engagent juridiquement, mais de façon non contraignante, et de ce fait inefficacement, tandis que les entreprises bénéficient de retombées positives en termes d'image auprès de leurs actionnaires et de leurs clients et des citoyens. Cette année, les nominés sont Pour une, pour tous, tout pour moi. Prix décerné à l'entreprise ayant mené la politique la plus agressive en termes d'appropriation, de surexploitation et de destruction des ressources naturelles. Shell, Total, Crédit Agricole.
Que des bons candidats, quoi.
Bah oui.
Alors le gagnant est...
On ne sait pas. Je vous dirai tout à l'heure la date des remises des prix.
Ah, ce n'est pas encore passé. C'est la prévision. Ce sont les nominés.
Ce sont les nominés. Donc, plus vert que vert, prix décerné à l'entreprise ayant mené la campagne de communication la plus abusive et trompeuse au regard des activités réelles. EDF, en Serbie. Polluer tranquille pour un projet qui vous absout dans les Andes. GDF Suez. Et enfin, le dernier nominé est Mainsal Poche Pleine, prix décerné à l'entreprise ayant mené la politique la plus opaque au niveau financier, corruption, évasion fiscale, etc., en termes de lobbying et dans la chaîne de l'approvisionnement. Donc là, on a Permanco, Samsung et le train Lyon-Turin au niveau ferroviaire.
Donc vous pouvez... Même les trains peuvent être nominés. Donc,
Moi,
j'ai mal vidé ma poubelle hier, on peut pas être nominé.
Bah, ça, tu verras. Donc vous pouvez vous informer et voter sur le site du prix Pinocchio. La cérémonie publique de remise des prix se déroulera le mardi 18 novembre à la Java, 105 rue du Faubourg du Temple, dans le 10e.
Alors tous ces gens-là, ce sont des premiers de la classe quand même, toutes ces entreprises, d'avoir gagné le prix Pinocchio. C'est ce qu'on appelle des fois, dans d'autres termes, des cadors. Denis Lévedu.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et les membres de ATTAC.
Et notre invité, Julien Webb, économiste spécialiste sur les questions d'environnement et d'énergie. Et Magali va nous orchestrer cette interview.
Oui, bah comme vous le savez, nous sommes actuellement en plein débat sur la loi de transition énergétique. Alors c'est un projet de loi qui s'intitule très exactement, et c'est important, projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Et ce projet est actuellement examiné à l'Assemblée nationale depuis le 1er octobre. Alors, avant de présenter plus amplement Julien, je dois rappeler quand même que cette loi, elle est capitale pour la France, puisque... On sait bien que le gouvernement ne va pas engager un grand débat national sur cette question tous les ans. Donc cette loi, elle fixe un cap et un cadre qui vont être quand même assez pérennes pour que la France change de modèle énergétique. Donc l'idée est de passer évidemment d'un modèle majoritairement centré sur les hydrocarbures et le nucléaire à un modèle qui nous permette de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et de privilégier les énergies propres. Alors je ne vais pas forcément rappeler tous les enjeux du changement climatique. Chacun est un petit peu au courant de cette question, mais l'idée, enfin l'engagement qu'a pris la France sur l'ensemble des pays, la communauté internationale, c'est de limiter l'augmentation des températures à 2 degrés d'ici 2050. Donc le projet de loi détaille un tas de dispositifs pour inciter les propriétaires à isoler leur logement, etc. On ne va pas détailler ces dispositifs ici. Mais on va dire que les principaux objectifs, c'est la diminution de la consommation énergétique de la France de 50% en 2050 par rapport à 2012, d'augmenter la part des énergies renouvelables, et puis bien entendu de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, et encore, faut le préciser, de plafonner aussi la part du nucléaire à 50% dans notre mix électrique. Donc, Julien, tu es donc économiste et spécialiste des questions environnementales et énergétiques. Tu as travaillé comme économiste pour le ministère des Affaires étrangères, notamment pendant la présidence française du G8 et du G20. Et tu es désormais chercheur dans un laboratoire pluridisciplinaire qui s'intéresse à un certain nombre de sujets comme évidemment l'économie, mais la finance, la géopolitique, la sociologie et l'écologie politique. Alors, on t'a invité ici pour que tu nous aides à décrypter ce projet de loi. Alors, j'ai envie de te poser une première question. Quand j'ai lu que le gouvernement prévoyait de mobiliser 10 milliards d'euros sur 3 ans pour la transition énergétique. Ça coûte vraiment ça, la transition énergétique ?
Ouais, bien bonjour Magali. Évidemment non, ça coûte pas 10 milliards d'euros. Pour l'instant, les chiffres qui sont donnés par diverses associations, ce n'est pas moi qui les ai calculés, mais c'est généralement, ça s'échelonne de 11 milliards à 40, voire 60 milliards d'euros par an. Donc on en est très loin, on est très loin du budget du gouvernement. Après, c'est un choix politique qui est mise en avant, et voilà, si on peut faire une brève comparaison avec 2-3 chiffres que j'ai, les niches fiscales, une échelle basse d'estimation, c'est 75 milliards d'euros, jusqu'à 150 milliards, donc les sous, on peut les trouver, et je parle même pas évidemment de l'évasion fiscale qui peut s'élever jusqu'à 600 milliards d'euros.
Oui, voilà. Dans les niches fiscales, on trouve les chiens du capital.
Entre autres. Et en termes de PIB, on évalue, suivant les organisations internationales, du PNUE à la Commission européenne, de 1,5 à 3% du PIB, en fait, que ça représenterait d'investissement par an, cette transition énergétique.
Alors, on se dit, oui, ça, c'est possible de trouver cet argent, mais concrètement, on fait comment? Qui finance la transition? Qui paye pour la transition énergétique?
Alors évidemment, il y a plein de moyens de financer. Simplement, je pense qu'on ne prend pas les bons. Alors tout d'abord, en restant dans un cadre précis, cadre envisagé par les pouvoirs publics actuels, qui ont une vision très limitée, en tout cas très dogmatique, de l'économie, qui est surtout la lutte contre la dette publique, l'endettement public en général. C'est un carcan idéologique qui ne permet guère de manœuvre en fait de financer la transition énergétique. Alors pour l'instant, les instruments qui sont envisagés, c'est généralement des mécanismes dits incitatifs, c'est-à-dire qu'on va inciter les agents économiques, les ménages, les entreprises, à prendre des bonnes décisions. Alors comment on les incite ? Bon, on va mettre en place des règles, ça peut être des normes, ça peut être des taxes, ça peut être un marché carbone, ça peut être également des subventions. Voilà. Et tout ça, ça doit permettre, en fait, grâce à ces taxes, de rapporter des sous. Et ces sous supplémentaires, on peut les réinvestir dans la lutte contre le changement climatique ou la déforestation, contre la désertification, etc. C'est ce qu'on appelle la théorie du double dividende. Voilà. Donc on prend d'une part pour préserver et améliorer les comportements environnementaux, et on peut s'en servir dans d'autres domaines de l'environnement ou par exemple pour réduire des cotisations sociales, comme c'est souvent discuté. Voilà. Et donc un instrument qui est mis en place au niveau européen, un instrument très célèbre pour dans ce carcan idéologique, c'est le marché carbone.
Voilà. Le fameux marché carbone. Mais et qu'est-ce oui. que c'est ?
Marché carbone, qu'est-ce que c'est ? C'est une œuvre d'art, j'aurais tendance à dire.
Une œuvre d'art, carrément.
Ouais, tellement c'est ça procède vraiment à la financiarisation de l'environnement, ou en tout cas tout l'espace de la société. Donc je pense que c'est une grosse problématique. Déjà, le marché carbone, c'est on crée un bien à partir de quelque chose que personne ne veut. C'est-à-dire qu'en créant un marché sur un bien qu'on va échanger, de la tonne carbone, c'est-à-dire de la pollution, alors qu'à la base, dans la société, personne n'en veut, on va créer un marché où des gens vont en demander de la pollution et d'autres qui n'en voudront pas, et tout ça avec, ça va entraîner de la spéculation, etc. Donc chaque État, en fait, va avoir ce qu'on appelle un plafond de pollution à ne pas dépasser, un niveau de pollution à ne pas dépasser, et ensuite cet État où au niveau européen, l'Union européenne va répartir entre différentes entreprises des quotas, c'est-à-dire des quantités à ne pas dépasser de pollution. Et ces quotas vont pouvoir être échangés, parce que si une entreprise fait davantage d'efforts pour lutter contre la pollution, elle va se retrouver avec des excédents de quotas parce qu'elle aura plus dépollué que ce que l'on aurait lui aura été demandé par l'État. Et cet excédent va pouvoir être vendu sur le marché.
Alors, j'ai ouï dire que le prix de cette tonne de carbone était autour de 6-7 euros. Moi, j'en achète. Enfin, faisons du carbone. Ça marche.
En 2007, il était même à 0,2 centimes, je crois, la tonne de carbone. C'est des prix extrêmement bas, effectivement. Tu peux t'amuser à spéculer dessus. Je t'y invite pas, d'ailleurs, parce que la spéculation, il faut avoir des sous à la base pour pouvoir s'en sortir.
Mais ça veut dire que le prix du carbone, concrètement,
est très faible.
Il est très très faible. Ça
Exactement.
Veut dire que c'est pas valorisé.
Il n'est pas incitatif, effectivement. Quand on regarde les estimations qui avaient été faites au début sur le marché carbone, on aurait espéré un prix qui avoisine les 17 euros la tonne, et on aurait bien monté à 32 euros, etc. Quand on regarde les taxes environnementales dans les pays nordiques, on est plus autour de... Il y en a certains qui sont à 100 euros la tonne de carbone au niveau de la taxe.
Mais le principe, c'est qu'il y a des pollueurs qui vendent leur pollution à des gens qui n'ont pas de pollution.
C'est pas exactement ça. C'est généralement le marché carbone, c'est des entreprises qui sont assujetties à cette contrainte, cette réglementation, on va dire. Et certaines entreprises vont faire des efforts supplémentaires de dépollution, tandis que d'autres non. Et celles qui font pas ces efforts supplémentaires de dépollution vont pouvoir acheter les efforts supplémentaires qu'auront fait les autres entreprises. Et c'est ce qu'on appelle les quotas. C'est un échange de quotas d'émissions négociables.
Ouais.
Exactement.
L'effort est un marché.
Mais
alors, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut proposer pour financer cette transition énergétique?
Oui, parce qu'effectivement, les instruments mis en œuvre, c'est pas avec 6-7 euros qu'on va s'en sortir, hein, la tonne de carbone, sachant que le prix est très fluctuant, qu'il y a à droite à gauche des taxes, mais c'est très très opaque. En fait, tout simplement, ça rejoint un peu le sujet sur l'Union européenne, c'est que on est dans un carcan idéologique et on n'ose pas remettre en cause des politiques budgétaires et des politiques monétaires. Les politiques budgétaires, pardon, c'est autant une dépense qu'une création de richesse. Ça permet toujours de lisser en fait les variations conjoncturelles de l'économie. Et en même temps, ça permet de dynamiser l'économie. C'est l'effet, le fameux multiplicateur keynésien qui avait été montré dans les années 20 et qui est toujours d'actualité, plus ou moins fort, mais qui permet en tout cas, via des politiques de prélèvement et de redistribution, de dynamiser l'économie. La presse anglo-saxonne, qui est extrêmement libérale, comme les Financial Times, propose ce genre d'instrument actuellement à l'Union européenne. C'est complètement fou de voir des thatchériens, pro-thatchériens, dire qu'il faut faire ça à l'Union européenne, tandis qu'en France, la presse française n'en parle pas, mais c'est très symbolique. Et aussi, on peut voir, il y a l'autre levier, l'autre bras de la politique économique, qui est la politique monétaire, dont on n'entend plus du tout parler depuis que la Banque centrale européenne est indépendante.
Tu veux dire créer de la monnaie?
Créer de la monnaie, exactement.
Mais ça, on peut pas. Aujourd'hui, dans l'Union européenne.
Au niveau européen, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que ça répond effectivement à ce dogme ordo libéral, pour reprendre la définition exacte, qui est un mélange de Hayek et de monétarisme. C'est la position défendue par l'Allemagne, qui remonte, qui a toute une histoire derrière elle. Et effectivement, on s'est interdit cette politique-là en mettant la Banque Centrale Européenne indépendante. Mais libre à nous d'essayer de contourner ces règles-là, comme ça a pu être fait le cas lors du sauvetage des banques en France. On a créé une institution qui s'appelle la SFEF. Alors je sais plus, la SFEF exactement, pardon. Je sais plus exactement ce qu'elle veut dire, cet acronyme cher au pouvoir public français. Mais ça a permis de lever en très très peu de temps 77 milliards d'euros. Et donc de financer le sauvetage des banques. Mais ça, on n'en a pas entendu parler, et surtout on ne veut pas en entendre parler. Après, on peut aussi remettre en cause le dogme, l'idéal de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. C'est la seule banque des pays développés qui est indépendante de fait et de droit. Aux États-Unis, Obama a un droit de regard dessus, en Angleterre aussi, au Japon aussi, etc. Donc il est possible de créer de la monnaie par création monétaire. Pourquoi on s'en empêche? Parce que le dogme dit que toute création monétaire entraîne de l'inflation. Or, c'est pas vrai. Voilà. C'est prouvé, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de corrélation entre la création monétaire des banques centrales et l'inflation. Il n'y en a aucune.
Bon, tu nous dis qu'il faut changer de politique monétaire, économique, en gros, si on veut vraiment mettre en œuvre la transition énergétique. Mais est-ce qu'on ne peut pas douter d'une telle politique, de l'efficacité d'une telle politique à l'échelle de la France, quand on connaît l'ampleur du défi climatique? On va isoler nos bâtiments avec tout cet argent qu'on aura créé. On va continuer enfin, on va quand même continuer à acheter des produits qui, eux, ont été produits en Chine, en faisant tourner des centrales à charbon, transportées par camion. Bref, en fait, on va agir que sur une petite partie du problème, même si on trouve l'argent, non ?
Bah évidemment, mais après, c'est soit tu le mets au niveau mondial, soit tu le mets au niveau, à l'échelle régionale. Je pense que de toute façon, pour la transition énergétique, il faut agir à tous les niveaux, tant au niveau local qu'au niveau national, supranational, au niveau régional, au niveau par exemple de la constitution d'État ou autre, effectivement. Il y a toute cette problématique des échanges, il faut peut-être repenser également les échanges, etc. Puisque effectivement, tout ce qui est émis à droite ou à gauche, en termes de pollution, il y a un souci.
Et nous allons écouter, pour nous remettre de tous ces beaux propos économiques, les Cowboys Fringants.
Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Alors on est toujours avec Julien Beub qui nous décrypte un petit peu la loi de transition énergétique et ses enjeux. Alors on parlait de la nécessité d'agir peut-être à une échelle plus vaste que juste la politique française ou même européenne, et notamment cette question des échanges commerciaux. Est-ce que finalement il ne faudrait pas réduire les échanges commerciaux pour essayer de limiter l'impact des émissions de gaz à effet de serre ?
Tout à fait, je pense qu'il est nécessaire, en fait. On peut agir effectivement sur le côté énergétique, faire une transition énergétique, mais transition, quand on parle de transition, il faut parler de transition écologique. C'est un sens plus large, on y reviendra peut-être par la suite. Mais ça implique aussi de produire local, d'avoir des circuits courts de production, de repenser éventuellement la production. Et donc, si on veut mettre en place des choses comme ça, il faut avoir une forme de protectionnisme. Pour inciter,
alors c'est mot tabou.
Juron, évidemment, c'est un juron, c'est une insulte. Et autrement, on peut parler, si vous voulez, dans la terminologie, de parler de mécanismes d'ajustement aux frontières. Donc ça, c'est un terme plus doux.
C'est plus poli.
Voilà, exactement. Ça cache le protectionnisme, mais c'en est. C'est du protectionnisme environnemental.
Mais ça, l'OMC sera jamais d'accord.
Si, l'OMC peut être d'accord, en fait. Autant juridiquement, c'est même plus facile de mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières que éventuellement économiquement. Juridiquement, il y a, en fait, si on reprend les principes de l'OMC, c'est quoi ? C'est le principe de non-discrimination. Voilà, il faut que toute loi soit non-discriminatoire. Mais si un tel mécanisme aux frontières, un tel protectionnisme est imposé à tout le monde, tant aux producteurs nationaux, c'est-à-dire une contrainte carbone aux producteurs nationaux avec une taxe, parce que le marché carbone, on l'a vu, il marche très mal et il ne concerne pas tout le monde. Mais si on applique cette taxe au marché, aux entreprises nationales et aux entreprises étrangères, il n'y aura pas de souci. Et voilà. Et en plus, il y a des clauses au niveau de des clauses environnement et santé au sein de l'OMC qui permettraient aussi de passer outre cela. Par contre, économiquement, c'est le problème. C'est pour que ça soit égal, qu'une taxe soit égale, que le mécanisme en tout cas soit égal, parce que c'est pas forcément une taxe vu qu'on a un marché carbone aujourd'hui. C'est comment utiliser cet instrument ? Est-ce qu'on va effectivement mettre en place une taxe ? Ou est-ce qu'on va adosser avec ce mécanisme, avec le marché carbone ? Comment évaluer le contenu carbone des produits importés ? Pour une même bouteille produite en Chine, dans deux usines différentes, il y en a une qui se sera fournie avec de l'électricité produite à partir de charbon, et une autre à partir du nucléaire. Sauf que le nucléaire, ça émet peu de carbone. C'est un désastre écologique aussi, mais c'est pas le même désastre écologique. Et donc, du coup, comment intégrer tout cela ? C'est une véritable problématique économique pour mettre en place de tels ajustements.
C'est des calculs d'apothicaire.
Pour que ça soit autorisé par l'OMC, toujours.
Oui, voilà. D'accord. Mais alors, si on parle de taxes, on parle forcément d'augmentation du coût du prix des produits. Alors, quand on sait qu'il y a déjà énormément de foyers et de ménages qui ont du mal à joindre les deux bouts, est-ce que c'est réaliste aujourd'hui de parler de taxes ?
Ouais, bien sûr, parce que toute une question. L'économie est une science de partage des richesses, hein, d'allocation des richesses. Après, à partir de là, c'est une science politique.
Je sens qu'on vire gauchiste là.
Pas du tout. Non, je pense que vraiment c'est une question. L'économie est une science de répartition. Voilà, on répartit, on fait des choix politiques.
Ah, mais ça, c'est déjà un gros mot, ça. la ça répartition. Peut,
bien sûr, bah, pour ceux qui se posent peut-être pas de questions, ça va mieux, mais bon, après...
Personne n'a dit que la répartition devait être égalitaire en économie.
Oui, tout à fait. Ça, voilà, après, on peut faire des choix complètement inégaux. Et par rapport à la précarité, il y a un petit rapport qui est tombé, l'Observatoire national de la précarité énergétique, qui a été rendu le 3 octobre, où maintenant 20% des Français seraient touchés par la précarité énergétique. C'est tout bonnement hallucinant, ça représente 11,5 millions de personnes. Alors effectivement, dès lors qu'il y a des taxes aux frontières ou des taxes pour sur le transport routier, tel qu'a été refusé aujourd'hui ou hier, ça représente une augmentation des coûts, des prix en tout cas, des biens de consommation. Mais a fortiori, si on fait un choix politique de redistribution, les inégalités n'ont jamais été aussi élevées à l'heure actuelle que pendant l'entre-deux-guerres ou juste avant, je ne sais plus, il faudrait relire et revoir les graphiques de Piketty. S'il s'agit de redistribuer, de faire des choix d'économie politique, on pourrait très bien supprimer toutes les subventions des énergies fossiles pour pouvoir réallouer ces sommes-là à droite à gauche. Et effectivement, aider les gens dans la précarité. Il y aura besoin d'aide au début, mais une fois que les gens auront fait ces investissements d'isolation du bâti et autres, aider, parce qu'il y en a plein qui ne peuvent pas le faire, à partir de là, ils n'ont plus besoin de se chauffer, et du coup, le gain sur le long terme est évident. Le gain sur le long terme est évident. Maintenant, il faut impulser cette transition pour pouvoir avoir les gains de long terme. À court terme, effectivement, ça coûte plus cher.
D'accord. Bon, du coup, ce que tu veux nous dire aussi, c'est que si on produit aussi localement ces produits, on met en place cette taxe, ça pourrait être finalement l'augmentation du coût pourrait être annulée par le fait que certains entrants sont produits localement et qu'on entre dans
un système. Il peut y avoir des créations d'emplois également parce que voilà, donc du coup, tu peux sortir de la précarité énergétique des gens qui n'ont pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas d'emploi, par exemple, en faisant bosser localement. Tous les emplois qui ont pu être délocalisés ou en multipliant les effets de on produit local donc on consomme local, ça va forcément créer des emplois.
Et en réutilisant par exemple les produits, les déchets par exemple qu'on produit pour créer de nouvelles choses.
C'est aussi une forme de création d'emplois, effectivement, la réutilisation des déchets. Tu veux parler de l'économie circulaire ou l'économie de la fonctionnalité, effectivement.
Par exemple.
Le réusage, etc. Mais d'un côté, ça va créer des emplois, de l'autre, ça va en détruire, etc. Ça incite aussi à repenser le travail. Mais là, je vais peut-être trop loin, mais est-ce que le partage du temps de travail, tiens, c'est encore une histoire de répartition. On peut évidemment en parler en long, en large, etc. Mais il y a toujours des gains à attendre. C'est des choix de société, c'est des choix de politique économique. L'économie circulaire, je ne sais pas si tu veux...
On peut en dire un mot, peut-être expliquer un peu ce que c'est.
Ce que c'est simplement, en fait, de faire des cycles de production, d'allonger en tout cas les cycles de production... les cycles de consommation, les cycles de vie des produits. C'est-à-dire que la matière de votre clé USB, elle doit pouvoir être recyclée, la bouteille Perrier doit être pouvoir recyclée. Alors effectivement, c'est du verre vert, il y a du verre blanc, on peut pas mélanger deux verres, ce qu'il faut pas réglementer pour pouvoir avoir le verre de toutes les mêmes couleurs pour que ça soit plus facilement recyclable, etc., etc. Tout ça qu'il faut repenser. C'est vraiment repenser tout le cycle de produits. Et donc le recyclage pour allonger la durée en fait des produits qu'on peut utiliser, même s'il y a une perte en permanence, c'est le principe de thermodynamique, il y a des pertes permanentes à l'usage et à la transformation des matières.
Du coup, ça doit plaire à nos élus, à notre gouvernement, parce que finalement, on est toujours dans une dynamique de croissance avec ce modèle-là, non ?
On est toujours dans une dynamique de croissance, effectivement. Maintenant, il faut aller plus loin, effectivement, que cette dynamique de croissance. Il y a toute la question... quand on parle de transition énergétique, généralement, on occulte un peu l'écologique qui va plus loin. Dans toutes les instances, internationales comme nationales, on a tendance à cibler deux choses, les renouvelables, l'efficacité énergétique. Alors, c'est très bien, c'est deux bonnes choses, mais ça oublie souvent un concept qui est la sobriété. La sobriété, c'est quoi ? C'est repenser la consommation, repenser l'usage de ce qu'on fait, repenser l'utilité de ce qu'on a, des biens et des services qu'on peut avoir. Typiquement,
est-ce que j'ai besoin de l'iPhone 6 ?
Est-ce que tu as besoin de l'iPhone 6 ? Est-ce qu'on a besoin dans le métro d'avoir des écrans publicitaires, des écrans de télé publicitaires ? Sachant qu'un écran à plasma, outre les matières que ça nécessite, qui sont extrêmement rares, extrêmement énergivores à produire, il faut en plus en électricité, ça consomme autant que 6 ménages. C'est énorme. Et ça, vous multipliez ça, on n'est pas prêt de faire de la diminution de consommation électrique. EDF est très content, mais est-ce que c'est suffisant ? Effectivement, la sobriété, c'est un élément essentiel, en tout cas, à la transition écologique dans son ensemble, parce que les principes de sobriété, sans sobriété, on ne pourra pas s'en sortir. Et typiquement, Typiquement, la sobriété, c'est quoi ? Ça fait appel aussi, parce que si on veut consommer, tout remplacer, notre consommation énergétique, notre parc nucléaire, par du renouvelable, on peut pas. On peut pas, pourquoi ? Parce qu'il faut des matières. Or, pour les matières, sont de plus en plus rares. Des produits, des terres rares, du néodyme, etc., qui sont produits en Chine avec des considérations environnementales assez laxistes, peu importe. Mais ces mines, les mines en tout cas, sont toujours en déplétion. C'est-à-dire, elles sont de plus en plus vides et il faut retrouver de plus en plus de gisements, mais ces gisements, ils sont de plus en plus pauvres. Donc, il faut de plus en plus d'énergie pour produire ces gisements et extraire ces ressources. Donc, s'il faut plus de ressources pour produire des éléments qui vont vous servir à produire une énergie, il faudra toujours plus d'énergie. Donc, si vous enlevez ce concept de sobriété, si vous pensez pas de la sobriété, c'est-à-dire que vous réduisez pas votre consommation, on n'y arrivera pas.
C'est pour ça que l'économie circulaire ne fonctionne pas. Et que c'est bien, elle n'est pas suffisante, et que c'est bien vers la sobriété qu'il faut s'orienter. Cette sobriété peut être tout à fait heureuse.
Mais essayer de vendre de la sobriété en France, c'est voué à l'échec.
À part à peu près partout dans les pays développés, en fait. C'est bien là le problème.
Il y a un autre moyen de devenir sobre, c'est de changer de mode de vie, de revenir à la terre, de redevenir, par exemple, paysan. On danse le Parnias, Massilia Sound System.
Ah, la paix. Mio deretto, notre métier chino tu sordure, mais vivo la glevo et le trac.
Allô, le commando Fada. J'habite dans les Landes et je voulais vous dire que dimanche, ben, on va tuer le cochon.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et l'actualité, comme le disait Alex tout à l'heure, c'est que la croissance a disparu. Oui, cette fameuse croissance dont tout le monde parle, elle n'est plus là. Non. Si on écoute les prévisions de l'INSEE en France, comme au niveau du FMI, tout le monde est pessimiste. D'après l'INSEE en France, croissance quasi nulle d'ici la fin 2014. Pour la deuxième fois depuis le mois d'avril 2014, le FMI, le Fonds monétaire international, a révisé à la baisse les prévisions pour l'économie mondiale. Et hier, qu'à quelques jours plus tôt, la production industrielle allemande du mois d'août a été enregistrée une chute surprise de 4%, avec pour l'automobile 25% du jamais vu depuis 2009. Même la première économie de la zone Europe, euro, n'est plus à l'abri d'une récession. Et les bourses européennes sont depuis en net repli.
Alors, l'économie, grosse malheur.
Voilà. Mais est-ce que cette croissance, cette fameuse croissance, peut revenir ? Alors, si on en croit l'économiste Robert Gordon, la réponse est non. Et je pars ici sur une lecture de ces derniers articles qui a été fait par le magazine Alternative Économique de ce mois de septembre. Mais c'est peu quand même d'explications, enfin à ma vision. C'est quoi cette croissance ? Cette croissance économique, c'est la variation de production de biens et de services d'une période à l'autre. Donc, par exemple, on prend le fameux PIB, là, qui essaye de calculer toute la richesse produite sur un pays. On gomme l'inflation, tout ce qui permet de faire des comparaisons à peu près honnêtes. Et on va regarder, par exemple, d'une année à l'autre, si le PIB d'une année d'un pays est supérieur à celui de l'année passée. La différence, grosso modo, c'est la croissance. Ça veut dire qu'on a réussi à produire autant, voire même un peu plus, avec moins de travail. C'est censé témoigner du fait que la vie des populations est transformée parce qu'on crée davantage de biens et de services, on a plus de richesses, enfin on enrichit peut-être pas tout le monde, mais enfin une bonne partie des gens, en libérant les gens des corvées productives. C'est quand même beau la croissance, non ? Alors si elle disparaît, on est foutu.
Il y a aussi les innovations européennes. Par exemple, la différence entre une année et l'autre, la croissance, c'est les putes. C'est-à-dire que la comptabilité européenne a décidé d'intégrer la prostitution et l'argent de la drogue.
Moi, j'ai essayé d'être global, voilà, et lui, il rentre dans les petits détails.
Donc, il y a de la croissance.
Alors, d'abord, pourquoi est-ce que Robert Gordon, dit qu'il n'y a plus possibilité, véritablement, d'imaginer que la croissance va reprendre ? D'abord, il dit qu'il faut partir de ce qui a fait naître cette idée de croissance, c'est l'histoire des révolutions industrielles. On a passé brutalement à l'invention de la vapeur, l'invention de l'électricité, même le début de la révolution informatique, qui ont véritablement changé l'économie et qui ont relancé grâce à ces moyens. Évidemment, avec moins de monde, on produisait plus. Mais aujourd'hui, la révolution informatique qu'on a, elle est plutôt au niveau de l'individu, et pouvoir réserver plus vite son billet de train, est-ce que véritablement ça change l'économie ? Si on prend cet exemple même dans la comptabilité, ça devient fou. Est-ce que vous savez que Sony, qui emploie 140 000 personnes à travers le monde, est valorisée à 18 milliards de dollars ? Bon, c'est un chiffre. Mais ce qui est fou, c'est d'imaginer que la dernière application qui s'appelle WhatsApp, que Facebook vient de racheter, elle l'a rachetée 19 milliards de dollars, plus cher que Sony, elle n'a que 55 employés. Donc imaginez ce qu'aujourd'hui veut dire le monde de l'argent dans cette idée d'innovation, bah, cette petite innovation minuscule qui est une appli pour portable, on la valorise à un niveau qui n'est pas crédible. Donc, on peut, d'après Robert Gordon, on vit les derniers soubresauts des révolutions industrielles précédentes, et il n'y a pas de raison que ce qui coûte aujourd'hui 1 euro à produire ne coûtera pas l'année prochaine à peu près aussi 1 euro. Alors, il donne plusieurs freins à cette croissance. Il dit d'abord la démographie. Par exemple, le grand exemple de la démographie, c'est l'arrivée des femmes en Occident sur le marché du travail. Avec la même population à nourrir, on avait plus de mains pour travailler. Ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On a des personnes âgées qu'il va falloir justement nourrir avec moins de monde. Il faut être très productif.
Mais en même temps, si on voile toutes les femmes, ça relance le textile.
Je ne commenterai pas. On nous dit que l'éducation au niveau européen et typiquement en France est moins performant. Alors performant pour le monde de l'entreprise, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Si notre jeunesse aura peut-être du mal avec l'éducation qu'on lui donne à relever les défis de la productivité du demain. Au même titre qu'aujourd'hui, les inégalités augmentent, l'État-providence qui est censé répartir les richesses pour rendre un peu moins inégales les revenus de chacun, tout ça fait qu'il y a une pauvreté qui augmente, des gens qui vont moins consommer, une demande plus basse. C'est pas un moteur qui va permettre de relancer cette fameuse croissance. On aime le coût de la mondialisation et le coût de l'écologie. C'est deux nouveautés qu'on n'avait pas forcément en tête il y a quelques années. Il y a quelques années, la mondialisation, c'était très bien pour baisser les coûts de production. On va produire loin par des gens qui travaillent pour moins cher. Mais aujourd'hui, où tout le monde est à peu près à ce même niveau-là, ben maintenant, il faut commencer à compter le coût du transport, le coût de la production, et puis, on vient d'en évoquer largement tous les aspects, de mettre dans le coût d'un produit un petit peu plus d'écologie. On essaye de respecter un peu plus l'environnement, et puis même le coût des matières premières augmentant, il faut aussi en tenir compte. Donc, tout ça sont des freins à cette fameuse croissance. Alors bien, admettons-le une bonne fois pour toutes, s'il n'y a plus de croissance, c'est peut-être que nous sommes arrivés au moment où il faut commencer à mieux gérer notre consommation. On en parlait tout à l'heure, on se rejoint. La fameuse sobriété, être plus raisonnable, arrêter de toujours vouloir plus. On peut même dire qu'aujourd'hui, cette croissance était un danger pour notre planète. Réjouissons-nous, elle a disparu, construisons une autre économie. Merci. Alors, ça termine notre émission, mais nous allons bien entendu faire l'agenda militant, Jean-Marc.
Alors, nous commençons par une rencontre avec Pierre Carl et Julien Brigaud, projection de Les ânes ont soif, Glasgow contre Glasgow. Le premier film parle de l'Équateur, dirigé depuis 2007 par Raphaël Correa, qui propose des solutions originales, économiques, sociales et environnementales. Le second parle de la différence d'espérance de vie, tout de même 28 ans, entre un enfant né dans les bas quartiers et dans les beaux quartiers de Glasgow. Samedi 11 octobre à 17h, mairie de Versailles, et oui, salle Montgolfier, au sous-sol, ah oui quand même, 4 avenue de Paris,
c'est des
Versailles.
TAFTA, CETA, TISA, qu'est-ce que ça veut dire que tous ces sigles là ? Ces sigles désignent des accords de libre-échange et d'investissement négociés dans le plus grand secret. S'ils sont adoptés, ils consacreront la domination des multinationales sur nos sociétés au détriment des citoyens, citoyennes et de la démocratie. Sous couvert d'une hypothétique relance de la croissance, ces accords s'attaquent aux normes sociales, financières, sanitaires, culturelles et environnementales. Si elles s'estiment lésées, les multinationales pourront poursuivre les États devant des tribunaux privés d'arbitrage, hors de tout contrôle démocratique, évidemment. Alors, pour cela, des actions sont prévues partout en France et à travers l'Europe, samedi 11 octobre à 14h30, place Stalingrad à Paris.
Alors, des rencontres, des débats autour de Elf, la pompe Afrique, qui est une pièce de théâtre, un embryolo politico-judiciaire raconté par ses protagonistes avec les vraies paroles d'un procès. C'est organisé par le Grand Parquet, la Ligue des Droits de l'Homme, Amnesty International, et j'en passe. Il vous propose 3 rendez-vous, le samedi 11 octobre, les samedis 25 octobre et le jeudi 30 octobre. Tout ça se déroule au théâtre du Grand Parquet. Pour voir toutes ces pièces et ces débats animés, pour plus de renseignements, legrandparquet.net.
Et pour rebondir sur ce que disait Julien, grande journée donc contre le TAFTA le 11 octobre, Attaque 92 organise également une projection du court-métrage documentaire Les déportés du libre-échange de Marie-Monique Robin, suivi d'un débat. Ce sera le 15 octobre à 20h30 à Antony dans le 92, salle François Mollet.
Et jeudi 16 octobre à 13h, si vous êtes libre, place de la Nation, il y a des gens qui se réunissent pour manifester sur le thème « La sécu, c'est notre bien à tous », les journées nationales d'action et de grève, et plus d'informations éventuellement sur le site de la CGT Paris.fr.
Et toujours à suivre sur les gaz de schiste, un débat projection animé par Alain Dordet et Juliette Renaud avec les Amis de la Terre, donc un ciné-débat organisé par Attaque Paris 12, le jeudi 16 octobre à 19h au café associatif La Commune, 3 rue d'Aligre. Plus d'infos sur terredeschiste.fr.
Alors, le jeudi 16 octobre à 19h à la Bourse du Travail de Paris, rue du Château d'Eau, Paris 10e, Acrimed organise une soirée de débat, la politique, un divertissement médiatique comme un autre. Plus de renseignements sur www.acrimed.org.
Toujours pour Acrimed, toujours le 16 octobre, en fait à 19h30, à la Maison des Associations du 12e arrondissement, 180 avenue Dominil, dans le 12e, la critique des médias, pourquoi faire ? Pour les médias font et défont les rois, ils orchestrent des combats politiques et façonnent le débat public. Pour cela, pour débattre, ça sera avec Blaise Bagnin, qui est sociologue et membre de l'association Acrimed.
La Grèce, c'est aujourd'hui le laboratoire de l'austérité extrême. Débat avec Roxane Mitralias, militante écologique, et Panos Angelopoulos, membre du collectif Solidarité France-Grèce. Débat organisé par Attaque 93 à l'espace Comme vous et moi à Montreuil. Et j'ajoute que le vendredi 17 à 15h, il y a la manifestation et marche Science en marche qui part de Porte d'Orléans et qui rebondit sur le dernier émission que nous avons fait avec Alain Trottmann.
L'École de la rue, une université populaire et libertaire dans le 18e arrondissement, organise le 18 octobre à 16h une conférence sur science-fiction et anarchie, qui manifestement peut faire bon ménage. Donc ce sera à 16h, Bibliothèque La Rue, 10 rue Robert Planquette, dans le 18e.
Dans le cadre des cafés diplômes mensuels, les Amis du Monde Diplomatique vous invitent à débattre autour du dernier numéro de la revue du Monde Diplomatique, évidemment, Manière de voir, intitulé « Penser est un sport de combat » avec Evelyne Pieyer, coordinatrice de numéro, et Razmi Kocheyan, maître de conférence en sociologie à Paris 4. C'est le mercredi 22 octobre à 19h au bar-restaurant Le Lieu dit, 6 rue Sorbier, dans le 20e.
Et pour terminer, une histoire mondiale de l'anarchie, rencontre et débat avec Gaetano Monfredgna pour l'ouvrage Histoire mondiale de l'anarchie, vendredi 14 novembre à 19h à la librairie du Mont Libertaire, Publico, 145 rue Amelot, Paris, dans le 11e.
Et voilà ce qui termine notre émission, où nous recevions Julien Webb, économiste, qui nous a parlé d'écologie et d'économie. Et nous remercions tous les présents, Magali, Alex, Boris, Jean-Marc et la technique, Claude et Ludo. On se termine avec Mop Mop, Let I Go avec Fred Wesley. Let me tell you people. Revolution rising. Yeah, yeah.